Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h43, vous allez nous appeler certainement, 0826-300-300, ce matin avec nos éditorialistes du jour. Et on va faire un point en attendant ce qui buzz avec Benjamin Gless, ce dont on parle dans la presse. Et Guilhem Ricavi sera avec nous dans un instant, de la Provence.
Oui, absolument. Et bien sûr, Benjamin, dans la revue de presse, il y a le fameux contrat de confiance. C'est pas Darty, mais c'est oui. Macron à la une de l'opinion.
Effectivement, avec ce choix de justesse de ne pas reconfiner, le président a préféré prendre en compte le moral des Français. Une prise de risque, c'est jamais l'épidémie flambe. En tout cas, Emmanuel Macron préfère toujours être là où on ne l'attend pas, rappelle l'opinion. Pour l'heure, donc à la place d'un troisième confinement, le chef de l'État choisit une autre formule. Maintien du couvre-feu à 18h, mais aussi fermeture des frontières hors Union européenne et fermeture des grands centres commerciaux. Sur ce dernier point, d'ailleurs, la République des Pyrénées prend l'exemple de trois grandes galeries, désormais grandes perdantes de ce nouveau tour de vis sanitaire. L'indépendant catalan, pour sa part, évoque les 357 salariés de Cléra Salanca dans les Pyrénées-Orientales. Tous sont désormais au chômage. Ils ont pleuré en apprenant la nouvelle, raconte ce matin l'Indépendant.
Oui, absolument. De leur côté, les échos s'intéressent au spectre de la guerre des vaccins.
Ben oui, car le bras de fer entre l'Union européenne d'un côté et AstraZeneca de l'autre fait craindre une vague de nationalisme vaccinal, nous dit les échos. Bruxelles soupçonne en effet le laboratoire d'avoir livré au Royaume-Uni en décembre les doses produites en Europe. Le ministre allemand de l'économie menace d'action en justice. Ces laboratoires qui ne respecteraient pas leurs obligations. Alors face à ces tensions, AstraZeneca promet d'augmenter les livraisons pour les pays de l'Union européenne. 40 millions au premier trimestre, soit 30% de plus que prévu. Pour autant, Bruxelles prévient que le mois de février et le mois de mars resteront en tout cas difficiles.
Oui, absolument. Et une grande question, la une de Libération ce matin dans ce contexte. Faudra-t-il rembourser la dette ?
Cette fameuse dette du Covid, car avec le quoi qu'il en coûte, les dépenses de l'État s'envolent et la France emprunte massivement sur les marchés. Reportage dans la salle des marchés de Bercy, où l'on gère au quotidien les besoins d'argent frais de la France. 6 milliards en 6 minutes, les traders de l'emprunt turbinent, dit-on, à coups de burgers, frites, soda et de jargon impénétrable. Au-delà de ça, d'autres questions. Bien sûr, comment on sera payé cette facture de 150 milliards d'euros pour la seule année 2020 ? Faut-il l'annuler, cette dette ? Élément de réponse donc dans Libé avec l'économiste atterré Éric Baird. Il affirme que ce ne sera pas une bonne chose d'annuler cette dette, d'autant que selon lui, notre dette est soutenable. L'État s'endette pour investir, pour préparer l'avenir, pas pour faire n'importe quoi. Dossier complet donc à retrouver aujourd'hui dans Libération.
Oui, et puis un retour aujourd'hui à la une de l'équipe.
Oui, ça faisait longtemps. Le perchiste Renaud Lavillenie, de nouveau au sommet. Hier, il a de nouveau franchi la fameuse barre des 6 mètres 02. 5 ans qu'il attendait d'évoluer à de telles hauteurs. L'athlète de 34 ans réalise la meilleure marque mondiale de la saison. De quoi rêver d'un nouveau titre olympique. C'est bien sûr, les JO de Tokyo sont maintenus, ce qui est loin d'être sûr. Et puis à la une de l'équipe, le foot également avec ce titre Paris à l'Ouest, puisque après cette première défaite de l'ère Pochettino, 3-2 hier face à Lorient, le Paris Saint-Germain brouillon laisse les rênes du championnat de France de Ligue 1 au LOSC à Lille.
Oui, merci. Et on continue justement avec, puisqu'on a parlé de sport, bien sûr, avec ce qui s'est passé du côté de Marseille samedi dernier. Nous sommes avec, nous sommes avec Guilhem Ricavi, directeur des rédactions du groupe La Provence. Bonjour Guilhem.
Oui, bonjour Patrick.
Oui, évidemment, vous revenez, vous l'avez déjà beaucoup fait ce week-end, mais vous revenez encore ce matin sur les suites de ce qui s'est passé et de ce match qui ensuite a été annulé,
Oui, effectivement, on essaye de décrypter les raisons de la colère, en quelque sorte, autour de l'OM, parce que bien sûr, il y a la colère de mauvais résultats sportifs depuis plusieurs matchs, 3 défaites consécutives, ça c'est le premier point, mais en fait, ce coup de sang, ce coup de colère d'une centaine de supporters qui ont envahi le centre d'entraînement de l'OM reflète aussi une forme de malaise qui existe désormais entre les supporters marseillais et leur club, et notamment leur président, le Jacques-Henri Hérault, qui visiblement n'est pas le plus apprécié en ce moment. Donc il y a un passé, j'allais dire, un peu lourd autour de la colère qui s'est exprimée. Et puis il y a aussi sans doute l'absence de possibilité de pouvoir le dire dans le stade, car c'est là où s'expriment généralement les colères des supporters dans les tribunes avec ces fameux tifos. Ils ne peuvent pas le faire puisque les stades sont interdits d'accès. Ils ont donc ben voilà, trouver une autre méthode pour faire part de leur grosse déception et de leur envie de victoire pour le club phocéen.
Mais Guillaume Ricavi, il y a une question derrière, c'est est-ce que ce sont vraiment des supporters ou alors ce sont des gens qui voulaient semer un peu la pagaille, la zizanie et le chaos, comme le disent certains qui n'étaient pas forcément de vrais supporters de l'OM?
Alors, parmi la centaine de personnes présentes, c'est sûr que tous ne sont sans doute pas des supporters, ça c'est une évidence, certains étaient encagoulés et difficilement reconnaissables. Ce qui est sûr, c'est que la totalité des clubs de supporters du stade, hein, les ultras, les winners, étaient bel et bien représentés quand même dans ce cortège-là. Ouais. Alors initialement, n'était pas prévu un coup de sang et l'intrusion par la force dans ce centre d'entraînement. C'était une manifestation qui se tenait devant les grilles à l'origine et qui a dérapé. Alors effectivement, l'enquête déterminera si eh bien, c'était un acte prémédité ou alors si c'est le dérapage du fait de quelques-uns. Ce qui est certain, c'est qu'à Marseille, il faut le reconnaître, depuis quelques semaines maintenant, on voit cette colère s'afficher hein, sur les boulevards de la ville. Mmh. Les supporters ont installé parfois des banderoles pour dire leur colère et demander le départ du président Jacques-Henri Hérault. De façon plus amusante, des banderoles demandent le retour de Bernard Tapie aux affaires, également à la tête de l'OM. Donc il y a véritablement une crise, il y a une cassure aujourd'hui entre les supporters marseillais et leur club, sur fond de mauvais résultats, ça c'est une première chose, sur fond de mercato parfois décevant, et puis sur fond d'absence de visibilité. À Marseille, on aime le foot spectacle, et là on voit bien qu'on n'est pas en haut du classement et que les compétitions européennes semble nous échapper.
Ouais, et puis, ce que n'aimait pas, hein, on va peut-être conclure là-dessus, ce que n'aimait pas les supporters l'autre jour, et certains l'ont redit depuis, c'est que finalement, ce soit des gens vraiment qui viennent de l'extérieur investir et qui ne soient pas de Marseille. On a entendu beaucoup ça également, quoi. Parce que, évidemment,
Oui. Oui, vous avez raison, Patrick, de le souligner. Hein. Au moment où les tensions se font jour à l'OM, effectivement, les supporters marseillais disent qu'il faudrait un Marseillais à la tête du club ou qu'il faudrait en tout cas quelqu'un qui aime Marseille. Et en la matière, Jacques-Henri Hérault n'a pas été un très bon élève puisqu'il a tenu des propos sur Marseille lors d'une visioconférence dont la vidéo a fuité. Donc effectivement, il n'a pas forcément une grande affection avec la ville ou en tout cas, il ne sait peut-être pas parler directement au cœur des supporters marseillais.
Oui, absolument. Merci à vous, Guillaume Ricavi. À propos de Marseille, tiens, d'ailleurs, on sera avec un propriétaire de restaurant tout à l'heure qui sera avec nous, Eric Sermolace, qui sera avec nous entre 9h et 10h avec d'autres, puisqu'on va s'intéresser à tous ces secteurs qui sont touchés, qui sont frappés par évidemment l'ensemble en fait des fermetures, les salles de sport, les hôtels, les restaurants.
Menacés pour beaucoup.
Oui, menacés pour beaucoup. Du coup, il y en a comme Eric Sermolace qui sera avec nous, qui avait envie d'ouvrir et qui a envie d'ouvrir en fait aujourd'hui, en tout cas pour un côté très symbolique. Nous verrons ça. Il sera avec nous tout à l'heure entre 9h et 10h.
Et on continue le petit déjeuner de l'actu. Thierry Garrier, vos appels 0820
Oui, Thierry Garrier, Eric Revel avec nous, et puis des auditeurs. Dans un instant, on va parler évidemment des annonces de Castex, des conséquences en fait aujourd'hui. Thierry Garrier, si on revient d'un instant quand même sur cette annonce, finalement le chef de l'État appelle les Français à se responsabiliser. Est-ce que ça peut être entendu, ça, ce message, quoi ?
Écoutez, c'est tout de même une attitude différente de la façon dont les différentes mesures ont été annoncées, préparées depuis des mois et des mois. Ce tweet d'Emmanuel Macron, « J'ai confiance en nous », parle à tous les Français. Il s'inclut, lui et son équipe, dans ce « en nous ».« J'ai confiance en nous », écrivait-il sur Twitter. « Les heures que nous vivons sont cruciales. Faisons tout pour freiner l'épidémie ensemble ». Ce que le chef de l'État cherche à faire, c'est bien faire passer cette idée qu'il veut tout faire pour essayer d'éviter un confinement, même s'il n'est pas aussi drastique qu'en mars, un confinement qui serait à nouveau plombant, sinon catastrophique pour l'économie française.
Il n'y a pas d'acceptabilité sociale, comme on dit, hein, Éric Revel.
Il y a une dimension d'extrême difficulté à l'accepter, c'est clair aujourd'hui.
Maintenant, acceptabilité totale, je veux dire.
Ce que je veux dire, c'est que les Français, il faut arrêter de laisser entendre qu'ils n'ont pas pas envie d'obéir. Les Français se posent tous les matins la question de savoir si c'est pertinent. Et quand ils jugent qu'au fond, il n'y a pas le choix, ils obéissent. C'est un des pays qui a été le plus discipliné sur l'ensemble de l'Europe. Il faut arrêter de jeter comme ça cette espèce de qualificatif sur les Français qui seraient simplement des Gaulois irresponsables. Ce n'est pas le cas.
Oui, et Éric Revel,
Oui, mais enfin, il y a quand même, mon cher Thierry, un risque quand même de...
J'entends bien.
Sinon d'implosion sociale, en tout cas, il y a un risque d'acceptabilité sociale, comme l'a dit Patrick Roger, que mesure, à mon avis, le chef de l'État en ce moment. Bon, pour ma part, si vous voulez, je crois vraiment que le confinement... il peut sans doute être annoncé à la fin de la semaine pour les vacances scolaires. Je pense que ce timing-là, il est dans toutes les têtes. Et c'est parce qu'il y a un risque de l'acceptabilité sociale que je pense que Jean Castex, le président de la République, passez-moi l'expression, ambiance les Français, c'est-à-dire les amène à la conclusion qu'un reconfinement serait inévitable. Je pense que c'est dans cette logique-là qu'on progresse pour la santé des Français et que
tout ça est une mise en scène
violente et brutale aurait été sans doute pas du tout acceptée. Donc en fait, on prépare les esprits. Je pense qu'on est dans cette configuration-là.
Oui, vous croyez Thierry Guerrier, c'est votre sentiment aussi ?
Non, oui, c'est tout à fait crédible. L'idée que on veut montrer qu'on aura tout fait jusqu'au bout pour essayer d'éviter que ce plateau, comme disent les statisticiens, comme le disait Philippe Juvin tout à l'heure au micro de Sud Radio, que ce plateau doit être maîtrisé, qu'on a tenté de tout faire pour qu'il le soit sans confinement. Et puis finalement, mesdames et messieurs, vous voyez bien que voilà, cette espèce de mise en scène dont parle à l'instant Eric me paraît crédible, dans la mesure où, en fait, si jamais les chiffres étaient bons, après tout, on pourrait aussi, se ridiculiser, décider autrement. Ouais. Voilà. Mais tout ce que les confrères racontent de la façon dont les choses se sont déroulées à l'Élysée, à la sortie du Conseil de défense
vendredi,
la semaine dernière, exactement, puis la décision du Premier ministre de parler, alors que lui-même était persuadé que le président allait conclure un reconfinement, c'est pas simplement de la mise en scène. Il y a une réalité que traduisent toutes les déclarations de ceux qui étaient là, à ce moment-là, physiquement, et qui figurent dans les journaux, par exemple, aujourd'hui.
Absolument. Alors, au 0826 300 300, il y a Laurent qui est avec nous de Bordeaux. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez en fait de ce qu'on disait en fait à l'instant, c'est-à-dire que finalement c'est reculer pour mieux sauter, quoi, en quelque sorte.
Ben écoutez, moi j'espère que cela va se produire. J'espère que le président Macron va pouvoir tenir pour le moment, parce qu'il faut savoir que ce qu'on a vécu, c'est quand même quelque chose d'incroyablement difficile. Nous avons vécu une première phase qui a donné 30 000 morts, avec un coût de pandémie terrible, avec un coût de 20 milliards d'euros par semaine, qui est terrible. Un deuxième confinement qui a entraîné aussi 30 000 morts à peu près, avec un coût de 10 milliards d'euros. Donc en fait, on commence à accumuler en fait les milliards d'euros de dettes, et aussi les décès. On voit que quoi que l'on fasse, et on commence à s'en rendre compte, et je pense que le gouvernement commence à se rendre compte que maintenant, que quoi que l'on fasse, on arrive à une courbe, et que cette courbe, ce virus, a sa propre synergie, et que quoi que l'on fasse, confinement, pas confinement, masque ou pas masque, restriction, on commence à se rendre compte maintenant dans le monde entier qu'il va falloir vivre avec, et que le confinement, on ne le revivra plus comme on l'a vécu au mois de mars. Je pense que nous, on l'a vécu au mois de mars parce que c'était expérimental et c'était tragique. Les autres pays sont en train de le vivre, comme l'Allemagne, mais ils ne le revivront plus, et je suis sûr que l'Angleterre aussi, qui est en train d'expérimenter la fermeture des écoles scolaires, qui est une catastrophe à plus ou moins court terme, ne le revivront plus. Donc je pense que le traumatisme que l'on a vécu et que l'on vit depuis un an dans notre chair, en famille, avec les enfants, et ce que l'on voit autour de nous, il faut arrêter cela, il faut remettre en perspective. La France, vous savez qu'il y a à peu près 600 000 morts par an, il ne faut pas oublier cela, 600 000 morts par an naturels, entre 45 et 60 000 morts par mois, d'accord, 45-60 000 morts par mois, et là on parle de 200-300 morts par jour. Donc on a 100 départements, ça fait 2-3 morts par département, c'est vrai que c'est tragique de compter les morts, mais maintenant il faut vivre, parce que sinon on va avoir plus de morts issues de ce confinement, qui est absolument terrible. Il faut protéger nos anciens, c'est la priorité, on sait où ils sont, je pense que la sécu, les médecins savent où se trouvent les personnes à risque, il faut à tout prix les protéger, penser à eux, tout faire pour eux. Et par contre, il faut laisser notre jeunesse vivre parce qu'elle se désespère. Mmh. Elle meurt dans leurs 10 mètres carrés en chambre d'étudiants. Des jeunes qui ont des masques et qui ont des maux de tête terribles à l'école et qui n'arrivent plus à étudier. Un décrochage scolaire qui est abominable. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule que j'ai envie de pousser aujourd'hui. Mais surtout, vivons. Comme l'a dit Bedos, il faut qu'on arrive à retrouver cette énergie-là. Et surtout, pas oublier quand même que ce que l'on vit, c'est terrible, d'accord, mais qu'il y a eu plus grave et qu'on a les moyens de traiter et que je trouve affligeant que le gouvernement ne nous parle pas des traitements qui sont en cours. Ça fait un an qu'on a des morts, ça fait un an, et où sont les traitements, où sont les tests, où sont les études sur l'hydroxychloroquine, où sont les études sur l'hydroxychloroquine. Plein de pays l'utilisent avec succès et nous on n'a rien, on a le vaccin qui est foireux en ce moment et qui est une catastrophe, d'accord.
Alors bon, ça dépend, on aura du recul un petit peu plus tard, mais bon, c'est vrai que sur les traitements, là, vous avez raison, Laurent, il faudrait essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors, on commence à essayer d'avancer un petit peu sur certains traitements. Vous avez vu qu'on teste de nouveaux produits, en fait, à chaque fois. On voudrait bien que la solution vienne de là, hein, Laurent. Non, mais ça, c'est vrai. Thierry Guerrier.
Aucun laboratoire aujourd'hui, aucun au monde, qu'il s'agisse de start-up, de biotech ou de grands labos de Big Pharma, ne dispose d'un traitement qui soit réellement
efficace. Ils travaillent beaucoup plus sur le vaccin.
On est dans la recherche on la déteste et on voit bien qu'il s'agisse des uns ou des autres, mais aucun ne dispose. Là encore une fois, Philippe Juvin ou d'autres médecins qui défilaient au micro de Sud Radio le confirment. Personne n'a de traitement qui soit en capacité d'écraser le virus.
Le dit en fait Laurent, peut-être pas d'en venir complètement à bout. En revanche, on peut diminuer quand même un peu la charge.
Et là, ça, on a... Nous voulons. Ce que je veux dire, c'est que les informations connues par la communauté scientifique sont que, pour l'instant, aucun labo n'a réellement de traitement qui soit très efficace.
Éric, d'un mot, et puis ensuite conclusion.
Juste sur la question du vaccin. Bon, on verra s'il y a des effets à moyen long terme. Mais moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que aujourd'hui le problème, et on le voit partout en France, les municipalités, les conseils départementaux ouvrent entre guillemets des vaccinodromes. Le problème, c'est qu'on n'a pas de doses. Qu'il y a un réflexe patriotique qui joue, et AstraZeneca, le ministre de la Santé britannique l'a dit, ils vont d'abord fournir la Grande-Bretagne avant de fournir l'Europe et leur contrat. Mais il y a une autre question qui se pose, et moi vraiment j'aurais lancé cet appel. L'exemple de Sanofi, qui ne développe pas de vaccin pour l'instant, a été prié par l'État de produire du vaccin Pfizer. Ben moi, je propose une chose, que tous les laboratoires publics ou privés dans le monde qui n'ont pas développé de vaccin produisent les vaccins de leurs concurrents Pfizer, Moderna, AstraZeneca. On n'aurait plus de goulot d'étranglement, on n'aurait plus de problème de dose. Alors ok, il y a une question de profit et de chiffre d'affaires, mais là, il y a une pandémie mondiale. Si on arrivait à obtenir cette solution-là, je pense qu'on serait plus en train de se demander où sont les doses. Il y en aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Bon, allez, merci à tous les trois. Merci Laurent de nous avoir appelé 0826 300 300. Dans quelques minutes, on va continuer et on va donner la parole à des gens qui sont frappés durement, évidemment. Les salles de sport qui sont fermées, le secteur du tourisme qui est touché, les restaurateurs aussi, bien sûr. Alors certes, il y a des aides. Pour certains, ils nous diront que ces aides sont pas mal, ça permet de compenser. Mais pour d'autres, c'est quand même extrêmement difficile. Nous allons voir ça en détail. Vous pouvez appeler 0826 300 300 jusqu'à 10h.
On vous attend, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h06, merci d'être avec nous. On va faire un petit tour d'horizon sur les secteurs d'activité à la peine, les restaurateurs, les hôteliers, les salles de sport. Bien sûr, vous avez envie de réagir, 0826 300 300. Nous sommes déjà ce matin avec un restaurateur, Xavier de Namur, restaurateur à Paris et dans le Sud-Ouest, et auteur de « Si on se mettait enfin à table » aux éditions Calman Lévy. Bonjour.
Bonjour.
Oui, Xavier de Namur, bonjour.
Merci d'être avec nous.
Bonjour, enchanté d'être là.
Oui, alors on va faire évidemment un tour de table, parce que nous sommes le 1er février, ça fait bientôt un an que nous sommes touchés par le Covid, avec des secteurs plus affectés que les autres, notamment les restos-bars, une partie des commerces, les salles de sport, les hôtels, le tourisme. Et ce sont les parties immergées, parce que derrière, en cascade, ce sont beaucoup d'autres secteurs qui sont touchés, qui tournent au ralenti. Alors quoi qu'il en coûte, a dit Emmanuel Macron. Du coup, c'est vrai que si l'on compare avec d'autres pays, on a un système d'aide assez large. Mais tout cela a un prix. Et évidemment, il y a beaucoup de casse quand même, malgré tout, parce que tout le monde n'est pas touché. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui disent qu'ils ne peuvent pas avoir d'aide parce que c'est un tout petit peu compliqué. On avait un restaurateur de Toulouse qui était avec nous tout à l'heure, à 7h15, qui nous disait que les aides n'étaient pas arrivées au cours de l'année. Et ensuite, c'est arrivé un petit peu plus tard, là, et nous disait-il, hein, c'était le patron de l'UMI en Haute-Garonne, et ensuite, c'est arrivé finalement en fin d'année. C'est exact, ça, ou pas, Xavier de Namur ?
Alors, plusieurs choses. Il ne faudra pas oublier non plus les gens qui travaillent dans le spectacle, etc., qui sont particulièrement touchés, et donc il ne faut pas les oublier. Les aides, effectivement, ont tardé à arriver. Alors, en fait, il faut voir deux choses. Il y a ce qui est remboursé pour le chômage partiel pour nos salariés, c'est-à-dire les salaires qu'on a avancés. Et effectivement, il y a eu du retard, je dirais, un peu à l'allumage. Et on a reçu les aides pour novembre, décembre. Et pour ceux qui avaient déjà des salariés au chômage un peu en septembre, octobre, on a reçu ces aides que le 19 janvier. Donc, c'est vrai que ce retard, l'administration est un peu fautive là-dessus, voire beaucoup, et peut mettre en grande difficulté certaines entreprises. L'autre aide, ce qu'on appelle les 10 000 euros, a été versée depuis le mois d'octobre. Alors, avant, c'était que 1 500, ouais. A été versée depuis octobre, si on faisait moins de 50%. En novembre, elle a été versée. Et c'est pour décembre que ça a été décalé. Vous avez bien vu, le Premier ministre a dit au 15 janvier le formulaire, parce que, effectivement, le module avait été modifié. C'est-à-dire qu'on incluait aujourd'hui, à partir du mois de décembre, les entreprises de plus de 50 salariés. Et le plafond était monté à 200 000 euros, ce qui a effectivement posé problème pour le temps que l'administration s'organise. Mais les aides sont bien arrivées et sont bien pour 99% des entreprises qui sont concernées, ont bien touché leurs aides.
Oui. Xavier de Namur, on a compris, c'est assez technique, hein, sur l'ensemble en fait, des aides qui peuvent être versées. Mais pour les restaurants, il y a un mois, vous aviez rédigé une tribune où vous disiez pour les restaurants, mieux vaut rester fermé que de vivoter et de mourir. Est-ce que vous tenez encore ce discours aujourd'hui, alors que certains veulent rouvrir parce qu'ils n'en peuvent plus, on comprend bien, et puis qu'ils ont des difficultés, Xavier de Namur?
Alors, bien sûr que je tiens toujours ce discours. Je ne change pas de disque tous les jours. Je pense que, effectivement, dans le cadre de la pandémie, enfin, de l'épidémie et des restrictions sanitaires et le fait que nous sommes, nous, restaurateurs, comme tous les chefs d'entreprise qui recevons du public, avons une responsabilité. Moi, je ne veux plus avoir sur la conscience, effectivement, que ce soit mes salariés ou des clients. Moi, j'ai des clients qui ont plus de 90 ans, et ben, des gens qui vont partir en réanimation ou des gens qui vont être malades du fait que, la loi, je voudrais rouvrir. Contre la loi, je voudrais rouvrir. Il est clair qu'on est dans une république, j'entends les gens qui veulent rouvrir et qui disent qu'ils seraient des révolutionnaires. Ils disent même qu'être républicain, ce ne serait pas respecter la loi. Alors, je rappelle à tout le monde qu'être républicain, si on reprend le marquis de Sade qui était enfermé à la Bastille, contre un facho, c'était le roi à l'époque, il disait effectivement, français, encore un effort pour devenir républicain, mais pour devenir républicain, pour avoir des lois qui soient respectées de tous et qui soient bien faites. Encore une fois, on peut discuter la cohérence de ce que fait le gouvernement. Je ne peux pas être contre, je dirais, des mesures, la loi, parce que du coup, je me mettrais hors la loi et ça pourrait avoir plus de conséquences et pour mon entreprise, et pour les clients, et pour mes salariés. Donc, encore une fois, on l'a vu avec ce restaurateur à Nice, se mettre hors la loi peut poser des problèmes. Si on veut, encore une fois, être dans un mouvement, je dirais, de désobéissance civile, il faut absolument qu'on ait un intérêt supérieur. Mais je ne vois pas l'intérêt supérieur, à part de dire « Ah, mon business, c'est plus important que la vie des autres ». Je ne crois pas.
Oui, mais Stéphane Manigold de l'UMI 31 disait qu'il fallait peut-être penser à réfléchir de façon territoriale, en fait, ou locale. C'est-à-dire que chaque restaurant est différent, il y en a qui ont des grands espaces, les petits espaces. Est-ce que ça veut dire qu'il faut adapter ? Il faudrait adapter ?
Non, alors Stéphane Manigold, je tiens à vous rappeler qu'il avait le collectif Restons Ouverts et qu'il disait au début, il fallait que tout le monde rouvre, etc. Oui. Tout, que ce soit les syndicats ou M. Manigold, tout le monde s'est dit, finalement, on va... Les aides sont arrivées. Moi, j'étais le premier à crier en disant il faut que les aides, il faut qu'on soit soutenu si on est fermé. Mais encore une fois, on ne peut pas dire vous avez un grand restaurant. Hier, j'ai vu, je crois que c'était sur BFM, M. Gagnère qui était reçu par Mme Apolline de Malherbe, Mme Apolline de Malherbe qui était reçue chez Gagnère. Effectivement, oui. C'est très grand, c'est très beau, etc. Enfin, on ne fait pas tous des menus à 380 balles. Et ensuite, on n'a pas tous des restaurants avec, je dirais, de l'espace, de la distanciation sociale, de 4-5 mètres entre les tables. C'est pas le cas. La plupart des restaurateurs ont des petits restaurants. La plupart des bars et des brasseries sont tout petits. J'étais le premier, dès le mois d'octobre, à fermer mes bars en considérant qu'il y avait un danger et pour les salariés et pour les clients parce qu'on était démasqués au bar. Donc, encore une fois, il faut pas dire et faire n'importe quoi. Je crois qu'il y a des autorités, on n'est pas médecin, on a une épidémie. Donc, vaut mieux que tout le monde, effectivement, moi, je suis quelqu'un qui est, je pense, légaliste et qui, en même temps, pense que l'intérêt supérieur de la nation et l'intérêt collectif doit dominer sur les intérêts particuliers. Donc, on doit avoir une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire et une égalité de traitement des petites aux grandes entreprises. C'est ce qu'on a demandé aussi les aides.
Non, mais ça, Xavier de Namur, c'est votre opinion, mais ce n'est pas forcément le cas, en fait, de tous, parce qu'il y en a. C'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi, par exemple, Turillon, tout à l'heure, disait il a une énorme salle, il peut recevoir et mettre, en fait, les gens à distance. Quoi. Donc, finalement, on paye pour tout le monde, quoi, en même temps, et y compris pour les petits restos. Les petits restos, bah ouais, d'accord, ils ferment parce qu'ils ne peuvent pas, mais effectivement, d'autres, qui ne sont pas forcément des restos à 150 ou 200 euros, mais qui peuvent être à 10, 12 euros en fait, en campagne, dans des endroits, ceux-là pourraient peut-être rouvrir, quoi, non ? On le fait bien en Italie, en Espagne, le midi en tout cas.
Alors, effectivement, en Italie, en Espagne, même avant, en Portugal ou en Angleterre, on a vu les résultats. Ce n'est pas forcément génial de ce qui se passe dans les hôpitaux. Mmh. Encore une fois, on ne peut pas avoir de rupture d'égalité. Vous savez, quand ils avaient fermé Marseille, j'étais le premier à m'être insurgé contre le fait qu'on ferme Marseille et qu'on laisse Paris ouvert. Ouais. On a rouvert Marseille, effectivement. Il y a eu des études. Alors, j'entends tous ceux qui veulent ouvrir nous expliquent qu'il n'y aurait pas d'études ou qu'il n'y aurait qu'une étude américaine qui daterait du mois d'avril. C'est faux. Il y a eu des études qui sont sorties dans Nature. Il y a l'étude de l'Institut Pasteur, même si les restaurants à ce moment-là étaient fermés. Mais effectivement, c'est démontré que c'est en mangeant, c'est à table qu'on a ce problème.
Alors, oui, mais il y a une inégalité, Xavier de Namur. Parce qu'il y a plein de restaurants aujourd'hui qui sont en click and collect. Et le monsieur qu'on évoquait ce matin, il dit que c'est impossible. Là où il est, c'est que c'est pas du tout formaté pour ça. Donc il y a forcément une inégalité aujourd'hui.
Alors effectivement, la vente à emporter et le click and collect, je rappelle quand même qu'ils ne se déduisent pas des aides. C'est-à-dire que vous avez des aides. C'est-à-dire que tous ceux qui disent qu'ils n'y arrivent pas, monsieur Tourillon comme les autres, nous n'avons pas, j'ai envoyé à Patrick, vendredi, mes bilans, mes chiffres, etc. À chaque fois, on ne sait pas d'où parlent ces gens. C'est-à-dire, je rappelle que M. Turillon, sur BFM, face à Pauline de Malherbe, il dit que le matin, il a une affaire et il a viré 12 salariés en CDD. Quand je le retrouve sur TPMP, sur Hanouna le soir, il a deux affaires et finalement, quand je lui dis qu'on ne vire pas les gens en CDD puisqu'on a le chômage partiel, il n'a plus. Le matin, chez Pauline de Malherbe, il dit qu'il a 5000 réservations. On verra aujourd'hui pour le 1er février s'il en a, combien il en a. Chez Pauline de Malherbe, il dit qu'il ne peut pas s'en sortir, qu'il a besoin de payer 12 000 ou 13 000 euros de charges. On ne sait pas d'où il parle parce qu'après, il nous parle de sa SCI, de son appart, de sa maison, etc. Bref, c'est un grand foutoir. On ne peut pas, encore une fois, se baser sur des gens qui ne donnent pas d'éléments factuels. Mmh. On peut, si au cas par cas, regarder que des gens n'auraient pas l'argent, en tout cas n'auraient pas reçu les aides, il faut comprendre pourquoi. S'ils ont des problèmes avec le fisc, effectivement, le fisc ne rembourse, ne redonne pas d'aide. Mais encore une fois, si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous recevez 10 000 euros sans ouvrir, c'est énorme, encore une fois. Et ce n'est pas les plus gros qui sont aidés, puisque, une fois, les plus gros, nous n'avons reçu les aides. Qu'à partir du mois de décembre, et même moi, puisque j'ai plusieurs affaires, on a plus de pertes, puisque pendant l'année, on a perdu, grosso modo, quand on était fermé, plus de 100 000 euros par mois. Et quand on a reçu les aides maintenant, comme on a plusieurs affaires, bah, l'État contrôle. Et donc, j'ai reçu des aides que sur une affaire, et j'ai un contrôle. Ouais. En attendant qu'il y ait un contrôle aléatoire, comme il peut y en avoir sur beaucoup d'affaires.
Allez, on va poursuivre et puis on aura dans un instant un hôtelier qui nous racontera aussi avec vous sa galère depuis des mois et des mois. On aura une représentante des salles de sport également, parce que les salles de sport, c'est incompréhensible. Il y a des endroits où tout est fermé alors que vous avez 50 mètres entre deux personnes. Je parle par exemple des salles de tennis, les salles omnisports. Vous ne pouvez pas jouer au tennis parce que évidemment, la personne elle est à 15 mètres de vous. Non mais c'est dangereux, vous imaginez. Non, mais c'est complètement aberrant, justement. Alors, c'est difficile de prendre des situations au cas par cas, mais alors là, on en a fait des généralités assez démentielles. Et on sera aussi avec un restaurateur, justement, du côté de Marseille, qui veut rouvrir tout à l'heure. Il sera avec nous vers 9h30.
On revient dans un instant. Il est 9h17.